À voix nue, Caroline Brouet. Cette semaine, je reçois
Céline Bardet, juriste et enquêtrice criminelle internationale.
Quatrième épisode, dans les Balkans. Bonsoir, Céline Bardet.
Bonsoir.
On s'est quitté hier sur le terrain, si je puis m'exprimer ainsi. Vous nous avez raconté comment vous travaillez, qu'est-ce que c'est le métier d'enquêtrice internationale. Mm-hmm. On va le voir encore un peu plus ce soir avec une expérience qui vous a conduite dans les Balkans pendant près de 12 ans, entre Kosovo, Bosnie et Serbie, de 2004 à 2016, où vous avez exercé votre métier de juriste et d'enquêtrice internationale. En 2011, vous avez publié un livre autobiographique, un livre qu'on ne lâche pas, je dois dire, qui s'intitule « Zone sensible » au pluriel, un livre dans lequel vous revenez assez largement sur cette expérience dans les Balkans. Est-ce que vous diriez, pour commencer, que c'est l'expérience la plus forte de votre carrière ?
Je pense que c'est l'expérience la plus forte. J'avais une hésitation, c'est-à-dire dans ma carrière, mais aussi j'avais envie de dire dans ma vie personnelle, mais pas au sens personnel, mais ça a marqué ma vie aussi, vraiment. Donc j'ai un attachement très très fort aux Balkans. J'ai été très au-delà du conflit, au-delà de toutes ces questions-là, mais j'étais aussi très marquée par ce peuple des Balkans dont je me suis sentie très proche. Et ça me, cette expérience, elle est aussi très fortement ancrée parce que je crois que c'est la première fois vraiment que j'ai vu et ressenti, j'ai trouvé dans les Balkans qu'il y avait une forme de dignité chez les gens par rapport et en comparaison avec ce qu'ils avaient vécu, qui sont des crimes d'une extrême violence et des choses absolument terribles. Et il y a cette dignité m'a beaucoup marquée.
Vous dites un peuple, ben ce peuple des Balkans. Ouais. Ils se vivent comme un peuple aujourd'hui, eux ?
Ben je sais pas. Ben non, mais de toute façon, c'est quand même un peuple. Je pense que eux, ils se voient aussi un peu comme un peuple. Oui, et puis la guerre, et c'est aussi ce que fait la guerre. C'est aussi ce que font les conflits. Il y a une division profonde qui était là un peu avant, qui a été exacerbée par ce conflit et qui est encore là aujourd'hui. Néanmoins, la Bosnie-Herzégovine, il y a ça aussi, c'est-à-dire que la Bosnie-Herzégovine, c'est encore aujourd'hui, c'est une sorte de symbole parce que ça reste quand même le territoire dans l'ex-Yougoslavie où il y a eu encore une multi-ethnicité, c'est-à-dire qu'il y a des Serbes, des Croates et ce qu'on appelle les Bosniaques musulmans. Donc oui, il y a quand même un peuple, moi je crois.
Vous avez vécu à Pristina, vous avez vécu à Sarajevo, vous avez vécu à Belgrade. Un attachement particulier à ces villes-là, rétrospectivement.
Alors, en plus, en Bosnie, j'ai vécu à Brčko, très difficile à prononcer.
Oui, on va y revenir à Brčko dans un instant, bien sûr.
Donc, en Bosnie, j'ai principalement vécu là-bas, c'est au nord de la Bosnie, mais j'étais aussi beaucoup à Sarajevo. Mais oui, il y a des attachements. Non, mais la Bosnie, il y a un attachement très fort. Parce que c'est aussi le symbole de cette multireligion. C'est Sarajevo, c'est quand même une ville magnifique. Il y a une histoire, donc il y a tout cet attachement. Il y a aussi ce conflit qui a touché la Bosnie. Enfin, c'est le territoire bosnien qui a été victime de ce conflit atroce. Et voilà. Et Belgrade, c'est autre chose. Mais Belgrade, j'ai adoré vivre à Belgrade. J'ai adoré cette ville, j'ai adoré y vivre, j'ai quasiment pleuré quand je suis partie, parce que j'avais pas envie de partir et j'ai décidé de rentrer à Paris. Mais c'est une ville extrêmement agréable et les Serbes sont des gens super, quoi, que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est une ville dans laquelle j'ai adoré vivre, Belgrade.
Alors commençons par le Kosovo, on va prendre les choses dans l'ordre. Peut-être d'abord un rappel de ce qui s'est passé au Kosovo. Et du contexte dans lequel vous y arrivez en 2004.
Alors en fait, le Kosovo, j'allais dire, ça a été ma porte d'entrée dans les Balkans parce que c'est le premier poste que j'ai eu. Donc je suis arrivée au Kosovo, je crois, en 2004. Et le Kosovo, j'allais dire, c'est beaucoup moins agréable à vivre que dans les autres parties des Balkans. Et le Kosovo, en fait, c'était un territoire qui était qui est toujours d'ailleurs plus ou moins revendiquée hein, par les Serbes, alors qu'il y a une population à grande majorité musulmane. Il y a eu la guerre en ex-Yougoslavie de 92 à 95, et puis ensuite il y avait des revendications territoriales sur le Kosovo, donc il y a eu des attaques sur le Kosovo en 99 qui ont amené à des bombardements de l'OTAN, ce qu'on n'avait pas vu depuis... très longtemps. Voilà. Après le Kosovo, j'ai été d'abord basée à l'ouest du Kosovo, donc sur la zone américaine, parce que après ça, il y a eu une supervision internationale au Kosovo, et les zones étaient divisées sous supervision militaire internationale. Et donc il y avait une zone française qui était en l'occurrence Pristina où je suis allée travailler après. Et mes deux premières années, j'étais à Djilan, et c'était sous zone américaine. Donc j'ai travaillé beaucoup avec les militaires américains et je travaillais avec la police.
Rappelons que c'est l'OSCE qui vous avait envoyé là-bas. Hein.
Exactement. J'étais recrutée par l'OSCE. Et là, ça a été un vrai travail de terrain. C'est-à-dire que je me suis vraiment retrouvée pas seule parce j'avais une petite équipe, mais complètement autonome en fait, avec ma voiture, mon équipe, et à aller sillonner les villages du Kosovo. Et j'étais chargée notamment. J'allais dans les commissariats pour voir ce qui se passait et voir si on n'enchaînait pas des gens au radiateur. C'était un peu ça. C'était encore, il y avait des tensions très fortes. Il y a eu beaucoup de violence. Moi, j'ai été victime. On m'a mis une bombe sous ma voiture. Donc,
et puis, vous avez été aussi victime d'une tentative d'enlèvement. Vous avez échappé de justesse.
Hein. Tout à fait, ouais. Une tentative d'enlèvement. Donc, c'était encore assez violent au Kosovo. Et donc, voilà. Donc, je travaillais sur ces questions de respect des droits de l'homme, de réforme de la police, de comment on fait pour que la police rentre dans un système de fonctionnement qui soit à peu près proche d'un état de droit. Et sur aussi, évidemment, les questions de justice et de crimes de guerre, parce qu'il y a des crimes ont été commis aussi au Kosovo. Donc c'est ce que j'ai fait pendant, je crois, deux ans et demi.
Et puis vous y avez aussi conseillé le tout nouveau ministre de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur a été créé pendant que vous y étiez.
Ouais.
Vous l'avez conseillé.
En fait, j'ai contribué à la création,
du ministère
de l'Intérieur. Voilà, parce que juste pour comprendre, mais hyper simplement, en fait, le Kosovo a été mis sous une sorte de tutelle. Hein, je sais pas, on pourrait dire ça comme ça. Et il n'y avait pas de gouvernement. C'était sous supervision internationale. Et au fur et à mesure, comme si en vérifiant que vous allez bien, Monsieur Kosovo va bien, au fur et à mesure, on vous rend des formes de pouvoir. Donc, on a commencé à rendre certains ministères. Et donc, le ministère de l'Intérieur et de la Justice, c'était quand même deux ministères régaliens. C'est assez important de lâcher ça et de faire confiance aux autorités kosovares. Et donc, moi, je me suis retrouvée à... L'Union européenne m'a contactée. J'étais assez proche de la personne qui a été nommée ministre de l'Intérieur, parce que c'était l'ancien commissaire de police de Djilan, donc j'avais travaillé 2 ans avec lui, donc je le connaissais très bien, et c'est lui-même qui a demandé à ce que je vienne auprès de lui pour l'aider à créer ce ministère. Et l'autre chose, il y a eu une sorte de double hasard, c'est que le ministre adjoint, s'ils avaient nommé un Serbe, c'est pour certainement des questions aussi symboliques, qui s'appelle Dejan Janković, qui était très jeune et qui avait été victime d'un attentat, on lui avait tiré dessus, en voiture, et donc il a été nommé adjoint, et lui aussi a demandé à ce que je vienne, parce qu'on se connaissait très bien, et il avait confiance en moi, et c'était quand même pas rien d'accepter ce poste de ministre adjoint, parce que ça l'exposait évidemment encore plus. Donc je me suis retrouvée et c'était hyper intéressant en fait, à créer un ministère de l'Intérieur.
Comment est-ce qu'on fait pour créer un ministère ? En l'occurrence de l'Intérieur.
Mais... Ben oui, non, mais c'est vrai que c'est un peu... C'est un peu bizarre.
De quoi on part, enfin,
c'est... Bah non, mais de quoi, bah déjà, un ministère de l'Intérieur, ça, alors là en l'occurrence c'était le cas, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, il avait la charge de la police, donc on a créé une nouvelle loi de la police, comment on structure la police, comment on met en place un mandat pour la police, comment on forme la police, parce que c'était un peu tout nouveau, quoi, donc il fallait former les gens. Moi j'ai écrit la loi sur la police avec le ministre. Et c'est comment on structure aussi le fonctionnement d'un ministère avec toute la responsabilité qu'il a s'agissant de la sécurité intérieure. Donc il y a tout un pan juridique, mais il y a aussi tout un pan de conseil stratégique. Et en plus, faut pas oublier qu'encore à ce moment-là, il y avait des tensions très fortes, bien sûr, avec la Serbie. Donc c'était aussi comment on gère les relations avec la Serbie, comment on gère les incursions sur le territoire. Il y avait des incursions intéressantes. Alors, c'est toutes les questions liées à la sécurité. Mais même pour moi, c'est assez surréaliste. Et quand j'y pense encore aujourd'hui, et en même temps, c'est génial parce que je me dis demain, je sais comment fonctionne un ministère de l'Intérieur. Mais moi, quand on m'a proposé ça au départ, j'ai trouvé ça complètement Je me dis, mais à quel moment je vais... Je connais rien à ça. Et en fait, c'était une expérience extraordinaire, quoi. J'ai appris énormément de choses. Et puis, il y avait un engouement, il faut se mettre... C'est comme si c'est un pays qui recommençait de zéro. Donc vous êtes dans une sorte d'émulation comme ça, vous avez une page blanche et vous allez créer un ministère et vous essayez évidemment d'aller vers l'idéal de ce qui serait le mieux, etc. C'était ça aussi l'idée avec l'appui de l'Union européenne. Donc on était dans des valeurs qui allaient vers celles de l'Union européenne. Donc c'était, il y avait aussi vraiment une émulation intellectuelle comme ça qui était vraiment bien et historique aussi le fait que cet homme, Dejan Janković, il m'a beaucoup marqué. Il était jeune, il est devenu le représentant serbe du Kosovo. C'était très lourd à porter. Et en même temps, il y avait une envie d'aller vers une image de réconciliation, de « on peut vivre ensemble ». Donc, il y avait tout ça aussi. Donc, c'était créer un ministère de l'Intérieur, mais avec un contexte quand même un peu particulier, quoi, de réconciliation. Donc, ouais, c'était vraiment super intéressant. Moi, j'ai adoré.
Il existe toujours ?
Il existe toujours, hein, il existe toujours. Il a tenu.
Il a le même code, il a les mêmes principes, il a les mêmes structures.
Alors, c'est pas le même ministre. Mais non, les ministères, ils ont été créés. Ils sont restés ensuite sur cette base-là, avec évidemment des évolutions législatives comme tout pays. Mais parce que là, je vous parle, c'était, je crois, en 2006, je crois. Donc voilà, mais non, donc c'est aussi, cela dit, c'est une bonne question parce que ça montre aussi que c'est pas tout le temps le cas, mais quand même, là, tout ce travail-là, il a eu un impact et il a duré. Donc c'est important, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire des choses quand même qui ont perduré, qui ont été posées sur des socles qui sont restés quand même solides, quoi, dans un contexte qui était compliqué.
Oui, contexte compliqué. Vous disiez d'ailleurs que vous aviez échappé à un enlèvement de justesse et une bombe placée sous votre voiture. À ce moment-là, le Kosovo, c'est aussi un pays qui est gangrené par la corruption, par les mafias, par la vendetta. C'est un pays dangereux, donc en fait, vous risquiez votre vie, clairement. Je ne vais pas vous demander si vous savez qui étaient les auteurs de ces agressions, mais plutôt comment... comme étrangère, justement, vous avez été accueillie là-bas. Comment ils ont regardé le fait que vous conseillez la police locale en matière de sécurité et de respect des droits de l'homme, vous participez, vous contribuez à créer un ministère. Ouais. Comment ont-ils pris les choses sur place, globalement, disons?
Ouais. Moi, si je vois d'un point de vue individuel, j'ai eu des relations très, très bonnes avec les Kosovars, tous ceux avec qui j'ai travaillé. Donc, d'un point de vue individuel, moi, j'ai toujours été très bien accueillie. Et à cette époque-là, comme je disais, c'est difficile à décrire en fait, mais il y avait quand même une émulation de reconstruction. Et il faut se remettre, l'ex-Yougoslavie avait éclaté. Le Kosovo qui avant avait été une région un peu autonome, je sais plus ce qu'ils avaient comme statut dans l'ex-Yougoslavie, mais un truc à peu près comme ça. Bon, bah là, ils se retrouvaient un peu comme pays. Et eux, leur obsession, c'était d'aller vers la déclaration de l'indépendance. Donc pourquoi je dis ça? Parce qu'il y avait une espèce d'ambiance comme ça. Eux, ils allaient tous vers ça. Donc à ce moment-là, les internationaux, ils étaient accueillis bras ouverts parce que en vrai, même si ça n'a jamais été dit directement comme ça, n'empêche qu'on les soutenait pour aller vers ça. Donc moi, de mon époque, il n'y a pas eu de j'ai été très bien accueillie. Je pense que après, les choses, elles se sont plus tendues. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on voit dans plein d'endroits ailleurs dans le monde. C'est-à-dire qu'au départ, les missions internationales sont plutôt bien accueillies. Et puis après, il y a un truc qui se passe pas bien. Et en fait, la question, c'est de savoir qu'est-ce que font les missions internationales, etc. Ce qui est un tout autre sujet, mais qui est un vrai sujet à poser, de mon point de vue. Mais voilà, donc moi, j'ai pas eu... En revanche, effectivement, et d'ailleurs, ça l'est toujours, c'est le Kosovo, c'est un endroit très particulier parce que c'est tout petit, il y a des enjeux interethniques très forts et il y a cette espèce de... C'est une zone de trafic énorme. Toutes sortes de trafic. Moi, je me suis retrouvée à ouvrir des camions remplis de femmes, donc dans le cadre de trafic de
prostitution,
traite des personnes, voilà. Donc voilà, il y a toute cette violence, et je suis pas sûre que ça ait beaucoup changé depuis. Je suis pas retournée au Kosovo depuis assez longtemps. Je suis retournée dans les Balkans, mais pas au Kosovo. Mais voilà, c'est un pays qui a du mal, quoi, à s'en sortir, quoi. C'est un pays qui a vraiment du mal, beaucoup plus que par rapport aux autres de la région.
Alors en 2007, vous partez en Bosnie-Herzégovine, vous êtes nommée directrice juridique et conseillère du haut représentant adjoint Rafi Grégorian.
Ouais.
Vous allez nous expliquer ce que vous faisiez en Bosnie et peut-être que nous allons partir de l'expérience de Brzko, où vous êtes allée. Mais d'abord, conseillère du haut représentant adjoint en Bosnie, Rafi Grégorian, ça voulait dire quoi?
Alors, je vais vous faire la réponse que lui m'a faite. D'abord parce que Rafi Grigoryan, c'est une rencontre extraordinaire. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, qui m'a beaucoup appris. Et quand je l'ai rencontré, on m'a demandé de venir pour un entretien, quoi. Et d'abord, je m'attendais à avoir quelqu'un d'assez plus âgé, je sais pas. Je me trouvais en face d'un type qui avait 40 ans à peine, super jeune, c'est le plus jeune diplomate. Avec un parcours assez impressionnant, très riche. Et qui, en plus, qui a une famille arménienne. Donc, est très touchée aussi sur toutes les questions, justement, de violence de masse, de génocide. Et la chose qui est un petit peu drôle, si je puis dire, c'est que quelques années avant, j'étais en Jordanie en mission et j'étais tombée sur un bouquin qui s'appelait « On the Road » de Vartan Grigoryan. Sans, évidemment, et même quand j'ai rencontré Rafi, j'ai absolument pas fait le lien, c'était le livre de son père, qui est un livre extraordinaire où il raconte, il a fui l'Arménie, et il raconte son parcours, il est arrivé aux États-Unis, etc. Donc, quelque part, on avait presque un lien avec Rafi sans le savoir au départ. Et ce qu'il m'a dit, pour répondre à votre question, il m'a dit, voilà, moi, je suis superviseur de Burjko, j'ai cette vision, etc. J'ai des gardes du corps pour ma sécurité, mais j'ai besoin d'un garde du corps pour border tout ce que je fais. Et donc, il m'a dit, je voudrais que vous soyez cette personne. En gros, ça consistait à s'assurer que toutes les décisions qu'il allait prendre étaient OK juridiquement, le conseiller juridiquement, même le conseiller stratégiquement, etc. Et la deuxième chose, parce que ça m'a pas hyper emballée, pour être très honnête, tout de suite, parce que je me suis dit, oh là là, je vais me retrouver...
Superviser le superviseur, ouais, c'est pas forcément ce que vous vouliez faire.
Oui, et puis le truc conseiller juridique, où il faut bien que tu regardes si ça rentre dans les cases de la loi... Je sais pas, mais peut-être qu'on commence à comprendre, c'est vraiment pas ce qui me fait vibrer, quoi, même si je suis juriste. Donc voilà. Et lui, je pense qu'il a senti ça, et c'est là où il m'a dit, là, tout de suite, la deuxième chose, c'est les crimes de guerre. Il y a rien qui a été fait, notamment sur toute la région de Burjko, où c'est là où le conflit a commencé. Et il m'a presque vendu quelque chose, il m'a dit, si il voulait vraiment que je prenne ce poste, il m'a dit, je vous donne le portfolio de crimes de guerre, en plus, hop, et vous avez carte blanche. Et là, je me suis dit, OK, banco. Et puis, il y a quelque chose qui s'est passé avec lui, clairement, pendant cet entretien. Et donc, je me suis retrouvée, effectivement, à Burjko.
Dans cette ville, une bourgade, on peut dire.
Ouais, très petite.
40 000 habitants.
Je sais même plus.
À ce moment-là, mais possible, ouais. Quelque chose comme ça. Quand vous arrivez, on est donc 13 ans après les accords de Dayton. Et je crois que seuls deux criminels de guerre ont été condamnés. Ouais. Et c'est une petite ville où, et c'est une des particularités qui vous a frappé, où les victimes et les coupables, on va pas les appeler bourreaux, les victimes et les coupables vivent ensemble, ouais. Et se côtoient, c'est des voisins.
Bah ouais, c'est ça.
Voilà. Et c'est une ville, doublement importante pour le conflit, que pendant la guerre, elle a abrité, cette petite ville, un camp de concentration, le camp de Luka. Et voilà, je voudrais que vous nous parliez de tout ça, et
ouais.
De ce que vous y avez vécu.
Non, mais c'est un endroit... Alors déjà, il faut savoir que quand je suis arrivée, ils venaient de brûler le tribunal parce que il y avait eu un procès pour crime de guerre de type absolument abominable qui avait violé des femmes et qui les avait enterrées vivantes. Et tout le monde savait que c'était eux, enfin, etc. Et ils avaient été acquittés. Donc c'était aussi le double challenge parce que Rafi m'avait dit, voilà, le contexte, c'est ça. Et il faut qu'on arrête ça. Donc, je suis quand même arrivée avec quelque chose. Et donc, ils avaient brûlé la cour, les gens de rage, quoi. Bref, donc déjà, ambiance. Ensuite, oui, c'est un endroit qui est très particulier parce que c'est là où le conflit a commencé. C'est un endroit très multiethnique et qui l'est toujours aujourd'hui. C'est un endroit stratégique qui a été revendiqué beaucoup par Karadzic. Parce que c'est l'accès sur la Serbie.
C'était l'ancien président des Serbes de Bosnie.
Voilà, l'ancien président des Serbes de Bosnie. Donc, bref, c'était un endroit qui était un peu revendiqué par tout le monde. Et en même temps, oui, une toute petite ville et où tout le monde vit ensemble et où pendant ce conflit, les gens sont entretués, ont été mis dans un camp. Il y a un camp qui a été créé sur le port où j'ai appris après... qu'en fait, il a été fait un peu à la va-vite pour des raisons pratiques, parce qu'il commençait à arrêter les gens, et à un moment, ils ne savaient plus où les mettre, et il y avait des hangars dans le port de Luka, et donc, ils ont créé ce camp qui est devenu ce camp absolument atroce que Goran Jelicic a commandé, et voilà, il y a eu des horreurs absolues.
Celui qui se faisait surnommer Adolf, dont on a parlé dans une émission précédente.
Voilà, qui parlait à son revolver. Et donc voilà, donc il y avait toute cette ambiance-là, et effectivement... il n'y avait eu aucune condamnation, rien. Alors qu'il y a eu des crimes énormes, plein de charniers qui n'avaient jamais été ouverts. Enfin, c'était même pas la question. Il y avait vraiment, il y avait quasiment rien qui n'avait été fait. Et les gens, effectivement, bah, tous les jours, se côtoyaient, allaient au marché. Et il y avait, après, j'en parle dans mon livre, de Zumreta, de toutes ces victimes, évidemment, que j'ai rencontrées après, mais qui, effectivement, allaient acheter leur poireau le matin et faisaient la queue à la boulangerie avec le type qui avait torturé et tué leur mari et leur frère. Et l'ambiance, c'était ça.
Vous avez rencontré Zumreta et une des victimes dont vous allez nous parler. Vous avez rencontré Svieta,
ouais.
Qui est une autre victime, elle serbe de 50 ans, qui a été violée par des soldats bosniaques. Et vous avez contribué très très largement à lui faire gagner son procès. Et puis de l'autre côté, disons, du spectre, puisqu'on parlait de Gilevich, il y avait Monika. Parce que tout ça, c'est à Berchko. Monika, j'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu, parce que Monika, elle avait 16 ans au début du conflit.
Ouais.
Elle a joué un rôle considérable. Elle a été ensuite condamnée en 2013 à 4 ans de prison, puis la peine en appel a été ramenée à 2 ans et demi. Alors, qui était Monika et pourquoi c'était un personnage assez fascinant ?
Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Monika, moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est au Tribunal pénal international, quand j'étais assise dans cette salle très formelle et solennelle, parce que quand les victimes sont venues témoigner au procès de Goran Jelicic, en fait, les victimes mentionnaient Monika. Et moi, j'allais voir le juge Claude Jardin en lui disant, mais enfin, qui c'est Monika ? Pourquoi ils parlent tous de Monika ? On n'avait rien dans le... J'allais voir même le procureur en disant, mais est-ce que tu as des trucs dans ton... Il me disait, mais non, j'ai rien, bref. Et Monika, en fait, c'était la petite amie de Goran Jelicic, et c'était une fille qui avait 16 ans à l'époque, donc 16 ans, qui était très, très belle. Et ça, évidemment, après, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai compris en plus que sa mère l'avait plus ou moins poussée à aller voir Goran Jelicic, qui était devenu le commandant de ce camp, et donc qui était un peu une image de force, de puissance à ce moment-là, pour qu'elle se fasse remarquer un peu de Goran Jelicic. Et derrière, il y avait l'idée qu'elle se disait, comme ça, on sera un peu protégés, voilà. Et elle est devenue la petite amie de Jelicic. Et le problème, c'est que lui, qui était quand même assez fou, puisque voilà, il se faisait appeler Adolphe, il parlait à son revolver. Enfin, on est quand même face à quelqu'un qui était quand même pas très, très équilibré. À chaque fois qu'elle venait le voir au camp, lui, il voulait l'impressionner. Donc, en gros, à chaque fois qu'elle venait, il tuait des gens, en fait. Les gens savaient qu'il...
Et puis, de façon particulièrement cruelle.
Et de façon...
Devant elle, en tout cas.
Devant elle, extrêmement cruelle et tout. Donc, il y avait une terreur, en fait, des gens qui étaient au camp, parce que eux, ils savaient que quand elle arrivait, ça allait être terrible pour eux, quoi. Et elle, en plus, rentrait dans ce jeu-là parce qu'elle provoquait. Donc, elle venait, ça, c'est le victime qui raconte ça, hein. Elle venait et, par exemple, elle montrait des gens, elle disait, lui, il m'a insulté, lui, il m'a regardé de travers, et hop, lui, il les sortait, il les faisait exécuter. Donc, c'est absolument horrible. Et ce qui est intéressant, quand même, c'est que les victimes, ce qui leur reste, c'est ça, en fait, plus presque que Goran Jelicic. C'est-à-dire qu'eux, on voyait qu'il y avait vraiment une terreur autour de Monika. Et c'est fou, quoi, cette gamine de 16 ans. Parce que donc, après, moi, j'ai eu cette sorte d'obsession autour de Monika, qui, elle, était partie en Serbie à ce moment-là. Et donc, j'avais travaillé avec la police de Brčko. Et quand j'ai quitté Brčko, je crois en 2011... je leur avais dit, faut rien lâcher. Un jour, elle va retraverser la frontière et elle a retraversé cette frontière et il m'avait appelé, parce que moi, j'ai travaillé sur le dossier, donc le dossier était prêt. Et il m'avait appelé, je me souviens très bien, j'étais encore une fois en Jordanie, et ils m'ont appelé en me disant, ça y est, on a Monika, effectivement, elle a été jugée, etc. Mais c'est, il y a une histoire, enfin, j'ai trouvé toujours que cette histoire de Goran Jelicic et Monika, il y a quelque chose de presque, je sais pas, un peu de Bonnie and Clyde, quoi. Il y a quelque chose de complètement, enfin, qu'on pourrait presque romancer. Et je trouvais ça assez fascinant. Elle avait refait sa vie. Hein.
Il y a eu un livre, hein, d'ailleurs, qui a été écrit sur elle.
Ah, mais ça, je
La
savais
petite
pas.
Petite fille monstre.
Ah oui, si, exact. Effectivement.
En 2013,
si,
je crois, justement.
Effectivement. Oui. Et non, il y a, voilà. Donc après, bon, est-ce qu'elle a été victime, pas victime, etc. Bon, je suis pas totalement sûre qu'elle ait été totalement victime autant qu'elle le dit, je ne crois pas.
Alors Céline Bardet, vous avez créé à Brčko une unité de crimes de guerre, ce qui vous a conduit à travailler dans les charniers.
Ouais.
Vous avez été aussi à l'initiative du premier procès pour viol de guerre. C'est le fameux procès de Svieta.
Ouais. Ouais, ça c'est très marquant parce que il n'y avait jamais eu de procès pour viol. Il y avait eu beaucoup de viols et... Et Rafi Grigorian, en fait, m'avait posé un peu un challenge aussi en me disant, vas-y, essaye, il faut qu'il y ait un procès, il faut qu'il y ait quelque chose qui restaure la confiance. Parce que je rappelle, voilà, qu'on avait quand même mille feux à la, faut voir aussi l'ambiance. C'est-à-dire que les gens avaient mille feux au tribunal, il y avait une cassure totale. Donc il y avait un travail à faire aussi de restaurer la confiance. Et donc d'une part, je suis allée voir tout le monde, et ça aussi c'est important. C'est-à-dire que j'ai commencé à parler aussi aux associations serbes. C'est-à-dire que je ne parlais pas qu'aux Bosniaques musulmans qui avaient été largement victimes de la guerre. Et le cas de Svjeta, il est aussi très intéressant parce qu'elle est serbe. Et elle avait été violée par des officiers de l'armée bosniaque. Et donc, j'ai choisi cette affaire, d'une part parce que c'était le viol, d'autre part parce qu'elle était serbe. C'était une affaire très complexe. Et parce que je voulais aussi... et ça, c'est un peu toute la discussion qu'on peut avoir autour de la justice. C'est-à-dire que moi, je crois profondément que la justice, il faut qu'elle soit complète. Si on veut participer à une forme de réconciliation, si on veut participer à une confiance, il faut poursuivre tous les crimes. Et il y a des crimes de partout, tout le temps. Il n'y a pas une partie qui commet des crimes et l'autre qui n'en commet pas. Donc voilà. Et Svjeta, c'est très fort parce que je suis allée la voir tous les jours pendant des mois. Et tous les matins, j'allais avant d'aller au bureau. En plus, j'avais ma voiture avec mes gardes du corps. Je me garais assez loin pour pas qu'on voit que j'arrivais chez elle. Donc, c'était tout un... Et on a parlé tous les jours, tous les matins, 7h du matin, de plein de choses. Et je me disais, elle va jamais me parler. Et puis, un jour, elle a sorti la bouteille de Slivovica. Et j'avais mon assistante Diana, qui est une fille absolument géniale. Et moi, j'étais... En plus, c'est drôle parce que ce jour-là, j'étais fatiguée, je sais pas. Je voulais partir. Et Diana m'a regardée et m'a dit, là, il faut rester. Et elle m'a tout raconté. Et je l'ai emmenée dans ce procès. Et on a retrouvé les gens. Et il faut savoir aussi que les gens n'avaient pas été identifiés. Donc, on a fait un travail. Vous me demandiez, c'est quoi le travail d'enquêteur criminel international ? Mais parfois, c'est un travail de, les gens se rendent pas compte de petits, nous, on n'avait pas d'auteur. On avait des éléments, on savait que ces officiers sortaient toutes les nuits, allaient violer Svjeta, rentraient, etc. Et elle avait le souvenir d'une couleur, de la couleur d'un écusson. Donc, je suis arrivée au bureau du procureur, j'ai dit, les gars, on va sortir toutes les unités, tous les uniformes des unités, etc. Et on va chercher. Et on a remonté comme ça. Et ensuite, quelle unité était postée là à l'époque? Donc, je veux dire, le travail d'un enquêteur aussi et d'analyse, ce sont des choses très laborieuses. Ça prend beaucoup de temps. Et on a réussi à identifier ces auteurs. Et l'autre chose dans l'affaire de Svjeta, c'est que d'abord, c'est la première affaire où le viol a été qualifié de crime de guerre, qui a eu pour conséquence de faire changer la loi, qui a ensuite été adoptée dans toute la Bosnie, et de faire changer la loi aussi sur les réparations, parce qu'elle n'était pas considérée comme victime de guerre, donc elle n'avait pas droit aux réparations financières, on a fait changer cette loi-là. Et la dernière chose, c'est, parce qu'on parlait de ça aussi, la créativité du droit, c'est que j'ai réussi à amener cette affaire, non pas en disant, en ayant des éléments assez étayés pour dire c'est eux qui l'ont fait. Moi, j'ai dit, il faut qu'ils nous prouvent que c'est eux qui l'ont pas, enfin, que c'est pas eux qui l'ont fait. C'est-à-dire, c'était pas possible que ça ne soit pas eux avec tous les éléments qu'on avait. Et on a réussi à avoir cette condamnation.
Et depuis, hein, ça fait maintenant une quinzaine d'années que vous travaillez sur les viols de guerre en particulier. Donc là, ça a été une affaire extrêmement forte qui vous a particulièrement marqué. Et on comprend pourquoi. On parlera de ce travail sur les viols de guerre demain, si vous le voulez bien. Céline Bardet, merci beaucoup. À demain.
Merci.
C'était À Voix Nue avec Céline Bardet, réalisation Guillaume Baldi, prise de son Alexandra Bergel, avec la collaboration de Daphné Abgral, une émission de Caroline Brouet, à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et sur l'application de Radio France.